Le livre de Daniel, numéro 4-10-20. Dévoiler l'énigme prophétique. Comprendre l'histoire de Daniel 11 et l'importance du Daily dans l'adventisme.
Après que nous aurons passé en revue l'histoire de 1863 jusqu'au temps de la fin en 1989, dans le contexte des quatre abominations du chapitre 8 d'Ézéchiel, représentant les quatre générations de l'adventisme, nous nous pencherons sur l'accroissement de la connaissance qui a été décelée en 1989. Cet accroissement de la connaissance concernait les six derniers versets du chapitre 11 de Daniel. En 1989, notre petit groupe d'études du sabbat a découvert les lignes de réforme de la prophétie biblique, auxquelles Future for America fait souvent référence, et qui établissent la séquence des événements dans chaque ligne de réforme, ce qui, à son tour, permet à un étudiant de la prophétie d'appliquer la méthodologie ligne sur ligne de la pluie de l'arrière-saison.
À bout de quelques années, 1992, j'avais rédigé un document couvrant les six derniers versets de Daniel 11. Ce document avait été écrit pour ma propre satisfaction, car je n'avais ni les moyens ni l'intention de diffuser publiquement l'étude. En 1994, le document était parvenu à un ministère adventiste autofinancé, et en 1995, une série de 11 articles couvrant les six derniers versets de Daniel 11 a été publiée dans une revue mensuelle éditée par ce ministère. Les écrits de l'esprit de prophétie ne contiennent que quelques références spécifiques à Daniel 11 et la plus importante d'entre elles est devenue un argument central en faveur de la validité de l'application que j'exposais concernant ces versets.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps troublés sont devant nous. Le monde bat agité par l'esprit des guerres. Bientôt, les scènes de troubles mentionnées dans les prophéties se produiront. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son plein accomplissement. Une grande partie de l'histoire qui s'est déroulée en accomplissement de cette prophétie se répétera. Au 30e verset, il est question d'une puissance qui « sera affligée ». Daniel en est emprunté à Rité. Des scènes semblables à celles que décrivent ces paroles auront lieu. Manuscrit Releases, numéro 13, 384.
Et Sir White est clair, 1798 est le temps de la fin.
Mais au temps de la fin, dit le prophète, beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé. La connaissance des prophéties a augmenté et beaucoup ont proclamé le message solennel que le jugement est proche. La grande controverse, 356.
Le verset 40 de Daniel 11 commence par « Et au temps de la fin ».
Au temps de la fin, le roi du Midi l'attaquera et le roi du Nord fondra sur lui comme un tourbillon, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il entrera dans les pays, débordera et passera outre. Daniel 11, 40.
Il est évident, même sans l'aval direct de l'esprit de prophétie, que le verset 40 marque le début d'une suite d'événements qui a commencé en 1798. Ces événements conduisent à la clôture de la probation humaine, car le premier verset du chapitre 12 de Daniel dit « Et en ce temps-là, Michael Ove se lèvera ». Et Sir White est clair sur le fait que lorsque Michael Ove se lèvera, la probation humaine prendra fin.
En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince qui se tient pour les fils de ton peuple. Et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Daniel 12, 1. Quand le message du troisième ange se clôt, la miséricorde ne plaide plus en faveur des habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu a accompli son œuvre. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement venant de la présence du Seigneur, et il y est préparé pour l'heure d'épreuve qui est devant lui. Des anges s'empressent çà et là dans le ciel. Un ange revenant de la terre annonce que son œuvre est achevée. L'épreuve finale a été imposée au monde, et tous ceux qui se sont montrés fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Alors, Jésus met fin à son intercession dans le sanctuaire céleste. Il lève les mains et d'une voix forte dit « C'en est fait ». Et toute l'armée angélique ôte ses couronnes tandis qu'il fait cette annonce solennelle « Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. » Apocalypse 22, 11. Chaque cas a été tranché pour la vie ou pour la mort. La grande controverse, 613.
Le verset 40 de Daniel 11 commence en 1798, et au verset 45, lorsque le roi du Nord, la papauté, arrive à sa fin sans que personne ne l'aide, la période de probation de l'humanité prend fin, car le verset suivant déclare « Et en ce temps-là, identifiant ainsi le temps représenté dans le verset précédent, c'est-à-dire le verset 45 de Daniel 11. Le roi du Nord, la papauté, parvient à sa fin à la clôture de la période de probation de l'humanité. Ainsi, l'histoire des six derniers versets de Daniel 11 identifie une séquence d'événements qui commence en 1798 et se termine à la fin du temps de grâce. Du vivant de Sir White, 1798 appartenait évidemment à son passé. Lorsqu'elle a déclaré que « la prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son plein accomplissement », elle ne peut se référer qu'à une histoire qui se déroule après 1798 et avant que Michel ne se lève. Elle affirme ensuite explicitement que « une grande partie de l'histoire qui s'est produite en accomplissement de cette prophétie sera répétée », instruisant ainsi l'étudiant de la prophétie que l'histoire finale de Daniel 11, qui a presque atteint son plein accomplissement, a été typifiée dans d'autres parties des récits présentés au chapitre 11 de Daniel. Une fois qu'elle a mis l'accent sur cette clé prophétique primordiale, elle cite ensuite les versets 30 à 36 et déclare « Des scènes similaires à celles décrites dans ces paroles auront lieu ». L'inspiration a fourni une clé aux étudiants de la prophétie qui souhaitaient comprendre l'accomplissement final de Daniel 11. La clé tenait au fait que l'histoire des six derniers versets de Daniel 11 constituait un parallèle avec l'histoire représentée dans les versets 30 à 36. Cette révélation apporte une grande lumière, mais ce qu'il faut considérer ici, c'est qu'au verset 31 de Daniel 11, le perpétuel est ôté. Pour bien comprendre l'histoire qui illustre la séquence des événements menant à la clôture de la probation humaine, un étudiant des prophéties doit avoir la juste compréhension du perpétuel. Si le verset 31 identifie l'abolition du ministère de Christ dans le sanctuaire, ou s'il identifie la suppression du paganisme, il est absolument essentiel de comprendre cela si vous souhaitez saisir correctement l'histoire parallèle dont parla la sœur White lorsqu'elle écrivit « Des scènes semblables à celles décrites en quand ces paroles se produiront ». Bien sûr, l'adventisme laodicéen n'a pas reconnu l'accomplissement du verset 40 du chapitre 11 de Daniel comme identifiant l'effondrement de l'Union soviétique en 1989, mais le verset identifie bien ces événements mêmes. Pour ceux qui souhaitaient comprendre correctement l'accroissement de la connaissance prophétique survenue avec l'accomplissement du verset 40 en 1989, la juste compréhension du continuel est alors devenue la vérité présente. Au début du XXe siècle, cette compréhension correcte était importante, car elle était une composante essentielle des vérités fondamentales que le Seigneur a établies par l'intermédiaire de William Miller. Mais durant les 15 premières années du XXe siècle, le point de vue protestant satanique, qui affirme que « The Daily » représente l'œuvre de Christ dans le sanctuaire, était une position minoritaire, et il ne valait pas la peine de laisser s'engager la moindre controverse au sujet de la vérité selon laquelle « The Daily » est un symbole du paganisme. C'est pourquoi vous entendrez de la part des révisionnistes historiques, laodicéens, que le sujet de « The Daily » ne doit pas être érigé en question de test, ou que le sujet de « The Daily » ne doit pas être agité. Ce que les révisionnistes omettent toujours lorsqu'ils entraînent les non-instruits dans cette discussion particulière, c'est la précision que l'inspiration a toujours apportée concernant le sujet. Le passage suivant est adressé à l'ancien Haskell. L'ancien Haskell menait la défense de la compréhension correcte du perpétuel contre les attaques de Prescott et Deniers durant les deux premières décennies du XXe siècle. Faites bien attention, car Sir White n'affirme jamais que la compréhension de Haskell du perpétuel était erronée. Elle lui demande simplement de ne pas laisser l'agitation se prolonger, car le Seigneur ne voulait pas offrir une tribune permanente aux ennemis de la vérité, Prescott et Deniers, pour continuer à propager leurs faux enseignements. Dans le passage, Haskell est repris à propos du tableau, et le tableau en question est celui de 1843. Haskell avait reproduit le tableau de 1843 à titre de témoignage dans cette controverse, mais il ne s'était pas contenté de le reproduire. Il avait inscrit au bas du tableau le passage de Sir White où elle dit « Le tableau de 1843 a été dirigé par la main du Seigneur et ne devrait pas être modifié. » En lisant le passage, comptez le nombre de fois où elle dit « à ce moment ».
On m'a chargé de vous dire. Qu'aucune question ne soit, en ce moment, soulevée dans la revue qui tende à ébranler les esprits. Nous n'avons pas maintenant le temps d'entrer dans des controverses inutiles, mais nous devrions considérer sérieusement la nécessité de rechercher le Seigneur pour une véritable conversion du cœur et de la vie. Il faut faire des efforts résolus pour obtenir la sanctification de l'âme et de l'esprit. On m'a adressé des mises en garde concernant la nécessité de maintenir un front uni. C'est une question importante pour nous en ce moment. En tant qu'individus, nous devons agir avec la plus grande prudence. J'ai écrit à l'ancien Prescott pour lui dire qu'il devait être extrêmement prudent de ne pas aborder dans la review des sujets qui paraîtraient mettre en lumière des failles dans notre expérience passée. Je lui ai dit que cette question, au sujet de laquelle il croit qu'une erreur a été commise, n'est pas une question vitale et que si on la mettait en avant maintenant, nos ennemis en profiteraient et en feraient toute une montagne. À vous aussi, je dis que ce sujet, l'identité du quotidien de Daniel 8, ne devrait pas être soulevé en ce moment. Non, mon frère. Je sens qu'en cette crise de notre expérience, le tableau que vous avez fait republier ne devrait pas être diffusé. Vous avez fait une erreur dans cette affaire. Satan travaille avec détermination pour susciter des questions qui crieront de la confusion. Il y en a qui seraient ravis de voir nos ministres en désaccord sur cette question, et ils en feraient grand quart. Il m'a été indiqué que, quant à ce qui pourrait être dit d'un côté comme de l'autre sur cette question, le silence en ce moment est éloquent. Satan guette une occasion de créer la division parmi nos principaux ministres. C'était une erreur de publier le diagramme avant que vous ne puissiez tous vous réunir et parvenir à un accord sur la question. Vous n'avez pas agi avec sagesse en mettant en avant un sujet qui ne peut que susciter des discussions et faire ressortir des opinions diverses, car chaque point sera tiré à l'excès et interprété de façon à lui faire signifier quelque chose qui ne fera que nuire à la cause. Nous avons déjà fort à faire pour faire face aux fausses déclarations de ceux qui ont donné la preuve de leur volonté de porter de faux témoignages. Manuscript Releases, volume 9, 106, 107.
Dans l'article précédent, nous avons relevé que Ellen White a déclaré que ceux qui donnèrent le cri de l'heure du jugement avaient la bonne compréhension du continuel, et que l'opinion de Prescott et de Daniels, selon laquelle le continuel représentait le ministère de Christ au sanctuaire, venait de Satan. Elle a réprimandé Haskell pour avoir laissé la controverse poursuivre, mais non pour sa position quant à la vérité de ce que représente le continuel. À cette époque, la majorité croyait encore à la compréhension des pionniers du continuel, et, plus important encore, le verset de Daniel 11, qui devait être décelé au temps de la fin, en 1989, était encore à des décennies dans l'avenir. À ce moment-là, 1989, l'importance d'une compréhension correcte du continuel serait nécessaire. Les révisionnistes laissent toujours de côté les précisions d'Ellen White, qui étaient limitées à cette période particulière dans leur plat de fables. Comptez la qualification temporelle dans le passage suivant.
J'ai des paroles à adresser aux frères Butler, Loughborough, Haskell, Smith, Jigton, Daniels, Prescott et à tous ceux qui se sont activement employés à défendre avec insistance leur vue quant à la signification du quotidien de Daniel 8. Il ne faut pas en faire une question de mise à l'épreuve, et l'agitation qui a résulté du fait qu'on l'ait traité comme tel a été très regrettable. Cela a engendré de la confusion, et l'attention de certains de nos frères a été détournée de la réflexion qui aurait dû être accordée à l'œuvre que le Seigneur a ordonné d'accomplir en ce temps-ci dans nos villes. Cela a réjoui le grand ennemi de notre œuvre. La lumière qui m'a été donnée est que rien ne doit être fait pour accroître l'agitation autour de cette question, qu'on ne l'introduise pas dans nos discours et qu'on ne s'y attarde pas comme s'il s'agissait d'une affaire de grande importance. Nous avons une grande œuvre devant nous, et nous n'avons pas une heure à soustraire à l'œuvre essentielle à accomplir. Limitons nos efforts publics à la présentation des points importants de la vérité sur lesquels nous avons une lumière claire. Et je voudrais attirer votre attention sur la dernière prière du Christ, telle qu'elle est rapportée en Jean 17. Il y a de nombreux sujets dont nous pouvons parler. Des vérités sacrées, qui mettent à l'épreuve, belles dans leur simplicité. Sur ceci, vous pouvez vous arrêter avec une ferveur intense. Mais qu'on n'introduise pas, en ce moment, le quotidien, ni aucun autre sujet qui susciterait la controverse parmi les frères. Car cela retarderait et entraverait l'œuvre sur laquelle le Seigneur voudrait que les pensées de nos frères se concentrent maintenant. N'agitons pas des questions qui révéleraient une nette divergence d'opinion. Tirons plutôt de la parole les vérités sacrées concernant les exigences impératives de la loi de Dieu. Nos ministres devraient chercher à présenter la vérité de la façon la plus favorable possible. Autant que possible, que tous tiennent le même langage. Que les discours soient simples et traitent de sujets vitaux, faciles à comprendre. Quand tous nos ministres verront la nécessité de s'humilier, alors le Seigneur pourra œuvrer avec eux. Nous avons maintenant besoin d'être reconvertis, afin que les anges de Dieu puissent coopérer avec nous, laissant une impression sacrée sur l'esprit de ceux pour qui nous œuvrons. Nous devons nous fondre ensemble dans les liens d'une unité semblable à celle du Christ. Alors nos efforts ne seront pas vains. Tirons d'un même côté, et qu'aucune discorde ne s'introduise. Manifestons la puissance unificatrice de la vérité, et cela fera une forte impression sur les esprits humains. L'union fait la force. Ce n'est pas le moment de mettre en avant des points de divergence sans importance. Si certains qui n'ont pas un lien vivant et solide avec le Maître révèlent au monde la faiblesse de leur expérience chrétienne, les ennemis de la vérité qui nous observent de près en tirant le plus grand parti, et notre œuvre en sera entravée. Que tous cultivent la douceur et tirent des leçons de celui qui est doux et humble de cœur. Le sujet du Daily ne devrait pas susciter de tels mouvements que ceux qui se sont produits. En raison de la manière dont ce sujet a été traité par des hommes des deux côtés de la question, une controverse a surgi et la confusion s'en est suivie. L'action du frère Larry Smith en publiant un tract contenant une condamnation de ses frères et de leurs croyances n'a pas été approuvée par Dieu. Et à l'ancien Prescott, je dirais, le Seigneur ne vous a pas imposé de fardeau concernant cette affaire. Cela m'a peiné d'apprendre que l'ancien Daniel, sachant qu'il existait des divergences d'opinion à ce sujet parmi nos frères dirigeants, ait porté cette question au premier plan, comme cela a été fait dans certains endroits. D'autres de nos frères n'ont pas été guidés par la sagesse et n'ont pas raisonné clairement de la cause à l'effet quant au résultat de leurs efforts pour soutenir leur vue concernant l'interprétation du « quotidien ». Tant que persiste la situation actuelle de divergence d'opinion à ce sujet, qu'on ne la mette pas en avant. Que toute querelle cesse. En de tels moments, le silence est éloquent. Le devoir des serviteurs de Dieu en ce temps est de prêcher la parole dans les villes. Le Christ est venu sauver les âmes, et nous, en tant que dispensateurs de sa grâce, devons transmettre aux habitants des grandes villes la connaissance de sa vérité salvatrice. Brochure, numéro 20, 11-12.
Le frère Larry Smith, à qui elle faisait référence, était particulièrement indigné par la situation, car c'était le livre de son père, Daniel and the Revelation, que Prescott et Daniels voulaient réécrire afin de modifier ce qu'il avait écrit au sujet de The Daily. Le frère Smith défendait la vérité, et aussi son père. Elle qualifie à plusieurs reprises la controverse par les mots « à ce moment-là », et vers la fin, elle déclare « tant que la situation actuelle de divergence d'opinion concernant ce sujet existe, qu'on ne le mette pas en avant ». Toutes les universités adventistes qui enseignent The Daily aujourd'hui enseignent la conception satanique. Les conditions ne sont évidemment pas les mêmes aujourd'hui qu'à cette époque. La deuxième génération de l'adventisme a commencé lors de la rébellion de 1888 et le spiritisme s'est établi parmi les dirigeants. Cette situation a ouvert la porte à la progression d'illusions spiritistes plus grandes qui devaient engendrer un climat d'aliénation et de division, tandis que des hommes occupant des postes de responsabilité étaient déterminés à promouvoir tout ce qu'ils considéraient personnellement comme la vérité. Des hommes tels que Daniels, Prescott et Kellogg sont devenus des symboles de l'histoire où Ézéchiel a identifié ce que les 70 anciens, les anciens de la maison d'Israël, feraient dans les ténèbres, chacun dans les chambres de ses images, car ils disent « le Seigneur ne nous voit pas ». Dans cette génération, les messagers du message de 1888 se sont tous deux égarés dans les controverses, la confusion et le spiritualisme qui ont englouti les 70 anciens des Esselles, lesquels avaient représenté des idoles sur les murs du temple et sur les murs de leur esprit. L'œuvre de santé fut retirée à cause du spiritualisme de Kellogg, et pourtant les révisionnistes de l'adventisme laodicéen amènent les non-instruits à croire qu'une sorte de victoire est sortie du chaos de cette génération. Il y eut une histoire parallèle à l'époque des juges, où le résumé de l'histoire des juges correspond parfaitement à cette période, car le dernier verset des juges déclare
« En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Juges 21-25.
Nous montrerons, au fil de ces articles, pourquoi l'histoire des juges correspond à l'histoire de la deuxième génération de l'adventisme. Mais il convient de noter que, lorsqu'on considère l'histoire de l'adventisme laodicéen, l'histoire facilement accessible a été fournie par ceux qui pratiquent le révisionnisme historique. Sir White ne voulait certainement pas que le sujet du quotidien soit agité durant cette histoire, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une petite minorité d'hommes dont elle avait déclaré qu'ils étaient guidés par des anges qui avaient été expulsés du ciel et à qui l'on accordait une tribune publique pour promouvoir leurs idées erronées. Mais suggérer que Sir White ait jamais soutenu l'idée qu'il était acceptable de conserver l'erreur est exactement l'opposé de ce qu'elle croyait.
Frère, en tant qu'ambassadeur du Christ, je vous avertis de vous méfier de ces questions secondaires, dont la tendance est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais inoffensive. Elle ne sanctifie jamais, mais apporte toujours la confusion et la dissension. Elle est toujours dangereuse. L'ennemi exerce un grand pouvoir sur les esprits qui ne sont pas solidement fortifiés par la prière et affermis dans la vérité biblique. Témoignage, volume 5, 292.
Nous poursuivrons cette étude dans l'article suivant.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps troublés sont devant nous. Le monde est agité par un esprit de guerre. Bientôt, les scènes de détresse annoncées dans les prophéties se produiront. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque entièrement accomplie. Une grande partie de l'histoire qui s'est déroulée en accomplissement de cette prophétie se répétera. Au verset 30, il est question d'une puissance qui « sera affligée, reviendra et s'indignera contre la Sainte Alliance. Ainsi fera-t-elle. Elle reviendra même et s'entendra avec ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Et des forces se rangeront de son côté, et elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice quotidien, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Et ceux qui agissent méchamment contre l'Alliance, il les corrompra par des flatteries. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Et les hommes intelligents parmi le peuple en s'instruiront beaucoup. Pourtant, ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, pendant de nombreux jours. Et lorsqu'ils tomberont, ils seront secourus par un faible secours, mais beaucoup s'attacheront à eux par des flatteries. Et quelques-uns des hommes intelligents tomberont afin de les éprouver, de les purifier et de les blanchir, jusqu'au temps de la fin, car cela ne viendra qu'au temps fixé. Et le roi fera selon sa volonté. Il s'élèvera et se magnifiera au-dessus de tout Dieu, et il proférera des paroles étonnantes contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est arrêté sera fait. Daniel 11, 30, 36. Des scènes semblables à celles décrites dans ces paroles se produiront. Nous voyons des preuves que Satan obtient rapidement le contrôle des esprits de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans le temps de détresse dont il est parlé. Et dans ce temps-là s'élèvera Michel, le grand prince qui se tient en faveur des enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce même temps. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Et les sages resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice, comme des étoiles, pour toujours et à jamais. Mais toi, ô Daniel, tiens ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Daniel 12, N1 4. Manuscrit Trélucise, numéro 13, 179.